France Inter, le 6-9 du week-end.
Après les gilets jaunes, la main verte, celle d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À propos ce matin de la graine la plus grosse au monde, elle est produite par un cocotier.
Par le cocotier de mer, plus connu sous un autre nom, le coco fesse.
Ah oui, à Tahiti j'ai vu ça.
Eh oui, si la plante est ainsi nommée, c'est tout simplement pour la ressemblance de la noix avec notre fessier, malheureusement.
Celui des femmes surtout.
Oui, tout à fait.
Très féminin comme
ça,
graine.
Ça c'est vrai. Mais c'est malheureusement vrai que si cette vision peut
on vous dérange
sourire,
là, ça va.
Non, mais vous voyez les photos d'un coco fesse, c'est vraiment le bassin d'une femme.
Oui. Ah oui, tout à fait, mais c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, si l'aspect et le nom peut faire sourire, eh bien l'avenir du végétal du cocotier de mer, lui, est préoccupant.
Alors depuis quand connaît-on cette plante ?
Depuis le XVIe siècle, quand les navigateurs européens commencent à s'intéresser à l'océan Indien. En voguant sur les eaux, ils voient flotter les fameux cocofesses et ils sont impressionnés. Alors, par leur forme, bien sûr, et par leur poids, certains peuvent atteindre une vingtaine de kilos. Les marins pensent aussi que les graines sont produites par des arbres qui poussent dans l'eau. Et on peut finalement les comprendre, car à part les voir flotter sur les eaux ou échouer sur le sable, personne n'a encore vu, de ses yeux vus, un cocotier de mer. Il faut attendre le siècle suivant pour qu'il localise enfin des arbres sur l'île de Pralin aux Seychelles.
Alors, cocofesse, cette noix n'est pas vraiment savoureuse. Hein.
Elle est nettement moins bonne que la classique noix de coco et elle est surtout pratiquement impossible à ouvrir. Elle était toutefois appréciée pour de prétendues vertus aphrodisiaques et ce, bien évidemment, pour son aspect si caractéristique. C'est d'ailleurs pour cette raison, on le sait trop peu, que lorsque Kate et William, je parle bien sûr du couple princier, en voyage de noces aux Seychelles, a reçu comme présent le fameux cocofesse.
La situation est devenue grave pour le cocofesse à partir de 1976.
Les touristes sont très nombreux à se rendre aux Seychelles et beaucoup veulent en ramener dans leurs valises. Inutile de savoir grimper aux arbres pour en avoir, il suffit de les acheter à la plage ou à la ville. Depuis, et malgré les mesures de protection, rien n'y fait. Les braconniers savent que le cocofesse se négocie jusqu'à 450 euros le kilo sur les marchés asiatiques. Pour cueillir un maximum de noix, des pistes sont créées dans la forêt. On abat les arbres et malheureusement, en créant ainsi de telles percées, on favorise tous les autres commerces. Les arbres sont coupés, massacrés et plus aucune noix ne reste à terre et ne peut donc germer.
Et on sait, Alain, combien il reste de cocotiers de mer ?
Il en a été recensé 17 000 sur l'île de Pralin et 10 000 sur Curieuse, une île voisine. Alors pour mieux protéger l'espèce, une machine radiographique spéciale cocofesse inspecte les bagages à l'aéroport. Toujours est-il que l'Union internationale pour la conservation de la nature, ça ne plaisante pas, c'est l'UICN, a inscrit le cocofesse sur la liste rouge en 2011 et son statut, je parle du cocofesse, est passé depuis de vulnérable à en grand danger.
Alain Baraton, le jardinier, vos conseils aux questions que nous posent les auditeurs de auditrices de France Inter. On commence avec Jean-Jacques. Jean-Jacques a des pieds de rhubarbe qui donnaient beaucoup de feuilles, mais cette rhubarbe est aujourd'hui un peu chétive. Je viens de déplacer les branches, enfin le pied, et j'ai découvert que leur racine principale était creuse et noire à l'intérieur. Mais pourquoi donc ?
En vous écoutant, déjà, je pensais à l'espérance de vie d'une rhubarbe. Je ne sais pas combien de temps peut vivre une rhubarbe, mais ça serait peut-être intéressant. On le sait pour les arbres, on le sait moins pour les plantes. Mais il est vrai qu'au bout d'un certain temps, la rhubarbe eh bien, se déprécie. Je sais également que quand la rhubarbe vit dans une terre trop humide, elle risque d'attraper ce qu'on appelle la pourriture grise.
Et c'est quoi, la pourriture grise ?
C'est un champignon qui va justement profiter de la stagnation et de l'humidité en excès et qui va affecter le cœur même du végétal. Je sais aussi, même si je ne cesse de le dire, contrairement à ce que pense Patricia, que moi la rhubarbe, la confiture, c'est pas tellement mon truc. Alors je crois que vous la
c'est
faites
bon,
très
la
bien.
Rhubarbe, c'est bon,
c'est délicieux,
et qu'on attend toujours
compote, tarte.
Et qu'on attend toujours avec Eric que vous nous en offriez un pot à l'occasion.
Vous pouvez toujours attendre.
Eh bien, c'est agréable. Eh bien, je sais que la rhubarbe, il faut de temps en temps la renouveler. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. La rhubarbe a été jeune, elle était productive. Maintenant, il faut penser à renouveler les pieds.
Viviane a un anthurium qui a produit des fleurs de couleur verte, mais elles ne rougissent pas. Pourquoi, vous demande-t-elle, et comment y remédier ?
Alors, l'anthurium, c'est une fleur que l'on connaît bien, qui ressemble comme à un cœur dont s'échappe un spadis, et qui vit dans les sous-bois de ces régions, j'allais dire, privilégiées par le climat. Alors déjà, je rappelle que ce n'est pas une fleur qui est décorative sur la plante, c'est ce qu'on appelle très exactement un spadis. Il y a le spadis qui est une sorte de
d'excroissance,
tout à fait, et puis il y a une feuille qui est colorée, qui ressemble à une feuille, c'est donc une inflorescence. Eh bien, l'anthurium est une plante qui a besoin d'une une certaine luminosité mais qui déteste le soleil, qui a besoin d'une certaine humidité mais qui déteste l'excès d'eau. C'est une plante également qui, au bout d'un certain temps, eh bien fatigue en termes de floraison. Et si on ne respecte pas les conditions que je viens de dire, eh bien la plante, pour se manifester, pour montrer qu'elle est en souffrance, va malheureusement changer sa manière de faire et il y aura une sorte de décoloration de la fameuse inflorescence qui est donc la preuve qu'il est grand temps de réagir sur l'anthurium, soit le rempoter, soit le changer de lieu, soit l'arroser ou soit réduire l'arrosage.
Jean-Marie a une pelouse qui a été passée en revue, dit-il, par des corneilles. Elles ont retourné jusqu'à 20 mètres carrés en une seule journée, 20 mètres carrés de terre, c'est quand même pas rien. Pouvez-vous m'expliquer le phénomène et me donner un tuyau pour que cela ne se reproduise plus?
Je connais un peu le sujet car j'ai été moi-même victime de corneilles.
Il y a longtemps. Votre pelouse, pas vous.
Non, on est d'accord. C'était des parterres.
Quoique peut-être, elles s'en sont pris à vous, non?
Et peut-être. Tous les ans, nous plantions dans les parterres des fleurs.
À Versailles.
Qui le lendemain avaient disparu. Et on ne comprenait pas. Nous avons donc fait une petite garde et on s'est rendu compte que c'était des corneilles qui venaient et qui partaient avec. Et les corneilles sont des oiseaux qui mangent absolument tout. Ça boulotte, les tubercules, les céréales, les jeunes pousses, les insectes. Ça boulotte tout. Donc il y a certainement dans la pelouse quelque chose qui attire ces fameux oiseaux. Quoi? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles, elles savent.
Alain Baraton, bah oui. Jardinier du château de Versailles. Romuald vous demande, pourquoi parlez-vous si peu de permaculture?
Je déteste ce mot. Qu'est-ce que la permaculture? C'est l'écologie naturelle. A-t-on besoin aujourd'hui de qualifier une action qui est naturelle et qui est normale? Mon grand-père avait un jardin potager magnifique, il jardinait. Pourquoi dire qu'il pratiquait la permaculture? Ça n'a pas de sens.
Ça s'oppose aux produits chimiques.
Oui, bah tout à fait. Donc pourquoi qualifier ce qui est naturel? On devrait au contraire parler de jardinage trafiqué ou polluant. Je n'aime pas l'idée, pour se donner bonne conscience, d'inventer des termes. Autrefois, on parlait des pesticides, on les a appelés ensuite des produits phytosanitaires pour éviter de s'attirer les foudres des utilisateurs. Maintenant, des produits phytopharmaceutiques, ça reste toujours des pesticides et on change de terme. Permaculture, c'est un mot, une technique qui nous vient du Canada. C'est la manière d'entretenir son jardin au mieux en respectant l'environnement, les hommes et les animaux.
C'est ce que vous faites au jardin de Versailles?
C'est ce que l'on fait tous les jour, bien entendu. Donc, inutile de qualifier ce qui est normal.
Un conseil lecture pour terminer, Alain.
I Love Food, c'est un titre anglais, vous avez compris, c'est Farida, que j'ai la chance et l'honneur de croiser sur l'émission La Quotidienne sur la 5, et elle vient de sortir un livre de cuisine. Ce sont des recettes faciles et créatives. Et si je parle de cet ouvrage, moi qui ne sais pas cuisiner quoi que ce soit, c'est qu'elle a eu l'intelligence de mettre dans cet ouvrage les fruits et légumes de saison. Enfin, il y a un calendrier. On ne cesse de dire qu'il faut cuisiner en respectant les saisons. Ça, c'est de la permaculture. Et bien là, il y a un calendrier où on sait ce que l'on peut consommer en janvier, février, mars et avril, par exemple. Donc j'aime cette idée que les cuisiniers, enfin, tiennent compte de la nature. C'est I Love Food, c'est publié chez Forst Éditions et c'est écrit par Farida.
Et vous faites concurrence à François-Régis Gaudry ce matin. Merci Alain Baraton et à demain.
À demain.
Il est 7h52.